Je voudrais ce soir revenir sur ce que l'on a abordé la dernière fois, c'est-à-dire sur la question du dire. Depuis, j'en ai parlé lors du colloque d'assistance à l'UNESCO et j'ai essayé de transmettre dans quelle mesure le droit au féminin, puisque c'est comme ça que finalement j'ai appelé la conférence, dans quelle mesure le droit au féminin, dans ce colloque sur les droits de l'homme, non seulement avait été oublié, mais enfin ça, c'est tellement évident que il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque ça suppose le droit au féminin de partir de la question du langage. Et notre pratique de psychanalyste et, comme je le disais à cette occasion, celle aussi de chanteur lyrique, part de là, c'est-à-dire du fait qu'il y a, pour l'être parlant, cette existence du savoir de l'autre. Bien sûr, chaque terme est à préciser. Existence du savoir de l'autre qui permet de s'approcher de ce qui est au-delà du dit et qu'on oublie, qu'on dise reste oublié, et qui est la question du dit. Alors je voudrais aujourd'hui continuer dans cette perspective, puisque l'intérêt de cette dimension du dire, c'est de nous approcher de la signifiance, de la question du signifiant, puisque on peut évidemment avancer ça, hein, l'expérience le prouve, il n'y a du signifiant que du lieu de l'autre. C'est-à-dire de ce lieu d'existence. C'est-à-dire du fait que tout ce qui est pris dans les limites de la signification, et Dieu sait si on est pris là-dedans, à un moment, ne tient plus du fait qu'il y a un effet du langage. Voilà. Alors je crois que cet effet du langage, c'est ce qui permet, notamment, d'approcher du signifiant comme ce qui s'entend. Et c'est autour de cette question, que de ce qui s'entend, que je suis travaillé dans ma double expérience de psychanalyste et de chanteur lyrique. Je pense que je vais en dire un mot tout à l'heure. J'en ai déjà dit un mot la dernière fois, parce que je crois que là, il y a quelque chose qui justement, à un certain moment, et là vous allez reconnaître la contingence, cesse de ne pas s'écrire. Alors, partons de cette constatation qui est la découverte de la psychanalyse, qui est le dire de Freud. Évidemment, Freud ne l'a pas dit comme tel. Ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire, ça n'est pas de valeur, mais c'est le fait que, en tant que défricheur, et donc en tant que déchiffreur de ce savoir de l'autre, il a pu s'approcher, toucher du doigt ce réel de l'existence, et ce qui est quand même enseignant, on pourrait dire étrange, mais c'est pas si étrange que ça, enseignant, c'est le fait qu'à la fin de sa vie, quand il pousse la question de la mort du père, on peut se demander s'il ne fait pas marche arrière par rapport à ce qu'il a découvert, notamment dans les années 1900, lorsqu'il approche, lorsqu'il, comme le dit Lacan, lorsqu'il fait de la linguistique, c'est-à-dire qu'il s'approche de la dimension du signifiant. La science des règles, la psychopathologie de la vie quotidienne, le bon esprit sont les témoignages, on pourrait dire canoniques, de Freud, où il transmet qu'il y a un au-delà du signifié, et on peut dire à cet égard qu'effectivement, De Saussure, d'une certaine manière, attendait Freud, c'est la formulation de Lacan, De Saussure attendait Freud, pour autant que Freud, effectivement, fait de la linguistique. Évidemment, on pourrait dire, sans véritablement le dire comme tel. Et c'est pour ça que l'inconscient a à voir, bien sûr, avec la linguistique, au sens où ça va être transmis par Freud, où ça va être repris par Lacan, pas tellement au sens où les psychanalystes vont le reprendre, pas évidemment au sens où les linguistes vont le développer, notamment sur le plan universitaire, mais ce que la rupture qui est apportée par De Saussure et le cercle de Prague est la suivante: il y a une barre infranchissable, on ne peut faire qu'un saut entre le signifié et le signifiant. C'est-à-dire que le signifiant, je reviens sur des choses que j'ai déjà dit, le signifiant a une autonomie à condition qu'on ne s'en tienne pas aux effets du signifiant, qu'est le signifié. Alors je crois que on est en permanence, la poésie, c'est le signifiant, la mise en acte du signifiant, c'est aussi quelque chose qu'on a trouvé sur le tableau, et quand on travaille sa voix, lorsqu'on fait ce qu'on appelle des exercices, la technique, bien sûr que ça s'appelle comme ça, ce travail sur que je connais, qui est sur les voyelles, qu'elles soient uniques ou que ce soit des syllabes ou que ce soit des diphtongues, je crois qu'on peut avancer, c'est comme ça que ça se précise progressivement dans mon propre déchiffrage de ce savoir là des voyelles, je crois qu'on peut avancer que ces voyelles, je ne vais pas trop glisser sur le jeu de mots, la voix des voyelles, on peut considérer que les voyelles en question sont des effets du langage. Voilà. Et je crois que c'est ça qui est en jeu radicalement chez l'être parlant, et c'est en jeu avant qu'apparaisse la signification, et c'est ce qui est au cœur même du processus de la métaphore. Des purs effets de langage, et non pas évidemment de sens. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est possible de s'approcher de cette dimension-là, et qu'est-ce qui fait qu'il est important de s'en approcher? Eh bien, une première réponse, c'est de dire que le fait de penser, ça c'est dans le droit fil de la découverte de Freud. Ce que Freud décrit dans la science des rêves, c'est que la pensée est la conséquence de ce qu'il appelle une élaboration secondaire, qui s'appuie sur un processus qui est la censure. C'est-à-dire que dès que nous pensons, habituellement, nous censurons, c'est-à-dire qu'on peut faire le jeu de mots, qui est qu'il existe une pensure, qui est celle de la pensée. Et la pensée qui va définir des éléments délimités se développe dans ce champ, notamment, qui est bien défini par le plan, par ce que l'on va appeler les limites de l'image et de l'imaginaire, Et toute la question va être celle de ce qui va faire qu'à un moment, on peut reprendre le mot d'esprit, il y ait sidération de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a à ce moment-là quelque chose d'une rencontre qui se manifeste par cette sidération, qui est cette apparition du trois, du réel, de ce qui fait trois, de cet abori trois, du trois. C'est d'abord les trois du réel, et lorsque cet abord du trois apparaît, ça veut dire qu'il est, on pourrait dire, là. Il est là, mais il attend d'être cueilli, d'être, je ne sais pas si on peut dire recueilli, d'être cueilli. Et la dimension pas du sonore, la dimension du signifiant pour le psychanalyste, la dimension du son, encore faut-il préciser un peu ça pour le chanteur lyrique, est quelque chose qui est très proche et qui nous fait toucher à cette dimension du 3, pour autant que lorsque le chanteur lyrique, hein, je prends cet exemple-là parce que c'est celui que je connais. En plus, je dirais le ténor lyrique, c'est une certaine catégorie de ténor. Hein, c'est pas uniquement un adjectif qui vient comme ça qualifier le ténor qui chante dans les ténors, parce qu'il y a différents types de ténors. Les ténors légers qui sont très très hauts, qui ont une voix pas très puissante mais qui est assez haute. Ensuite, il y a les ténors lyriques. Et ensuite, il y a des ténors qui ont une voix moins haute. Moins chargé en harmonie, c'est-à-dire que le ténor lyrique est celui qui a la voix qui est, c'est ce que je pense, la plus chargée en harmonique, c'est-à-dire quoi? Ben, c'est-à-dire, là il y a un saut à faire, je ne sais pas comment on peut le faire, j'insiste, je défriche ces harmoniques qui viennent évidemment du corps de celui qui chante, mais c'est pas, même si on peut décrire ça sur le plan anatomique, physiologique, c'est pas ça qui est en jeu. Ces harmoniques, en fait, il importe que sur une note, par exemple, sur un La ou un Si, que va chanter le ténor, il importe qu'il y ait tout à coup une arborescence des harmoniques, c'est-à-dire que la vie se met à tressaillir dans cette note qui apparaît. Donc, il y a quelque chose là qui est un effet de langage particulier qui peut permettre à celui qui est récepteur, et celui qui est récepteur, c'est pas tellement celui qui chante, il pourra l'être, c'est comme dans le mot d'esprit, mais celui qui est récepteur, de par l'apparition de cette arborescence des harmoniques, d'entendre quelque chose. Alors, c'est la grande question. D'entendre quoi? C'est évidemment pas du sens. Il entend sans doute, je ne crois pas qu'on puisse dire le réel, l'apparition, un effet de réel. Pour autant que le réel, c'est quelque chose d'insaisissable. Alors, comment rapprocher ça de l'expérience de psychanalyse, de la pratique psychanalytique? C'est ce que je vais à nouveau essayer d'avancer ce soir. Je vais essayer de m'avancer ce soir avec vous, dans la mesure où je l'ai évoqué tout à l'heure et puis j'ai glissé. C'est comme ça qu'a lieu la dimension de la parole et de la pensée, c'est-à-dire que c'est par déplacement. J'ai glissé et j'ai glissé à partir de quelque chose qui bien sûr est important, qui est au principe de la découverte de l'inconscient, de la trouvaille que va faire Freud en écoutant des patients, qui est ce que l'on va appeler à ce moment-là, il y a un peu plus de 100 ans, la sexualité infantile. Chez l'importance de la sexualité infantile, chez l'adulte. Alors Freud va développer ça, donner même une ontologie. On peut vraiment mettre un H, une certaine honte, parce que c'est quand même pas tout à fait ça là, qui est en jeu dans l'affaire. Pourquoi? Parce que ce que Freud ne peut pas dire, mais qu'il vient toucher du doigt, il va toucher du doigt, par une interrogation justement qui n'est pas n'importe laquelle, « Was will das Weib ?»« Que veut la femme ?» Il va trouver ça, et il va s'agenouiller devant la femme, parce qu'il ne pourra rien en dire, il va poser la question à différentes femmes qui elles-mêmes ne pourront rien dire, il faudra le travail de Lacan sur les formules de la sexuation, j'en ai déjà parlé, pour s'approcher de cette dimension du féminin. Eh bien, on peut dire que la découverte de la psychanalyse, on peut s'étonner que ça n'a pas été découvert jusque-là, pourtant ça va de soi, c'est qu'il y a, alors là on voit bien ce que ça veut dire, le hors d'eux, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est comme ça que le formule Lacan, il n'y a pas de rapport génital, il n'y a pas de rapport sexuel, c'est-à-dire entre l'homme en tant qu'être parent, et là on n'est pas dans l'état civil, hein, entre ce que Lacan va appeler le tout homme, le savoir du tout homme, et puis celui qui va nommer évidemment pas tout, ce qui n'est pas tout dans cette fonction du tout homme qui est celle de la fonction familiale, il n'y a pas de rapport sexuel. Ça ne veut pas dire, parce que tout évidemment n'est tout. Tout peut s'ouvrir, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas, c'est la question du possible, à un moment particulier, y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et alors, pour que ce quelque chose ait lieu, évidemment, et c'est là qu'on n'est plus du tout dans un rapport au sens du corps habituel, ça suppose, évidemment, qu'il y ait quelque chose, c'est ma lecture de Lacan, qui puisse s'entendre. Alors, je voudrais revenir un peu là-dessus, c'est assez compliqué, on ne sait pas bien où on va quand on s'approche de là, mais c'est ça l'intérêt. Le fait qu'il n'y ait pas de rapport sexuel, qui existe depuis tout le temps, enfin, entre les hommes et les femmes, Dieu sait si c'est quelque chose de compliqué, au niveau de l'état civil, mais c'est compliqué parce que justement, chaque être parlant a une part, on va dire, de savoir masculin, et une part de savoir, on va dire, qui est celui du féminin, et que c'est donc au niveau de chacun qu'il y a une solution à trouver. Pour chacun, aussi bien celui qui est du côté homme au niveau de l'état civil, que celui qui est du côté femme au niveau de l'état civil. C'est-à-dire que nous avons, du fait que nous sommes habité par le langage, et que nous l'habitons. Nous sommes des êtres parlants, la suite de ça. Nous avons à la fois cette chose qui témoigne d'une grande richesse, mais qui en même temps témoigne de notre grande difficulté à ce que advienne quelque chose de nouveau. Alors, il n'y a pas de rapport sexuel, du fait que, effectivement, la jouissance de l'autre, de ce lieu d'existence de l'autre, elle est très problématique. Hein, si on parle de ce lieu d'existence de l'autre, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher comme ça, qu'on peut pas le contrôler, c'est ce lieu qui vient vers nous et qui nous contrôle à un certain moment. Et là, j'insiste, c'est la dimension de la signifiance. Eh bien, Cette jouissance de l'autre, alors on va l'ajouter à l'autre, du corps en tant qu'il le symbolise. Bon, c'est tous des éléments qu'il faut un peu préciser, mais on le précise de plus en plus. Donc vous voyez la dimension du corps qui est en jeu. C'est pas le corps, évidemment, qu'on observe, hein, fût-ce avec les appareils les plus perfectionnés, scanner, IRM, etc. C'est autre chose. C'est quelque chose qui est un corps. Moi, j'en suis là, le corps qui est créé, qui est produit, notamment dans cette articulation du son et du sens, et particulièrement du son, et donc de la signifiance. Donc, le rapport sexuel n'existe pas du fait que la jouissance de l'autre est pour le moins très problématique. Alors, pourquoi elle est problématique? Parce que d'un côté, d'un côté, elle est perverse, hein, c'est du côté de l'homme, c'est-à-dire qu'il met la femme en position d'objet titane. Et puis de l'autre côté, du côté, on va dire, du féminin, cette jouissance, elle est énigmatique, voire folle. Hein? Bon, je renvoie aussi. Vous renvoyez les formules de Lacan, mais je crois que ça suffit de dire les choses. Folle, ça ne veut évidemment pas dire folle au sens de la psychiatrie. C'est-à-dire que ça dépasse toute limite. La dimension du patou ne peut pas rentrer dans les limites de ce qui peut se définir. Alors, ça, on pourrait dire, c'est les données, ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de rapport sexuel, parce que justement, il y a cette jouissance de l'autre qui est toujours à côté, qui fait que ça ne peut pas se rencontrer, l'homme et la femme. Ce qui fait que dans l'inconscient, il n'y a pas un signifiant du côté de l'homme, il n'y a pas un signifiant du côté de la femme. C'est comme ça que ça marche. Alors, à partir de là, Qu'est-ce qui peut faire que ce qui ne cesse pas s'écrit, la dimension du nécessaire, le discours habituel. Par exemple, puisque on a fait un colloque là-dessus sur les droits de l'homme, à propos des droits de l'homme, ce qui ne cesse pas de s'écrire en tant que droit de l'homme, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, quelque chose, alors, de ce savoir de l'autre, peut soudainement se manifester, et du coup, que ce qui ne cessait pas de s'écrire, le nécessaire, cesse de ne pas s'écrire. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que, vous voyez, qu'une négation qui se déplace fait changer tout à fait l'univers. L'univers de l'être parlant, et que cette dimension du contingent, ce qui cesse de ne pas s'écrire, va conduire à la dimension du possible, qui est ce qui cesse de s'écrire. Évidemment, ce qui ne cessait pas de s'écrire, le nécessaire, ne cesse pas, c'est assez facile à tenir, c'est le ne cesse pas, la nécessité. Ce qui ne cesse pas de s'écrire vient évidemment recouvrir complètement ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, c'est-à-dire le réel du rapport sexuel, de l'impossibilité du rapport sexuel. Donc, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, il importe qu'à un moment, ça puisse apparaître. Alors je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça vraiment qui est au cœur du transfert, pas pour moi. C'est ça qui peut s'entendre à un moment. C'est ça qui peut s'entendre, alors ça s'entend. Ça ne se comprend pas. Ça ne se pense pas. C'est impensable, évidemment. C'est pas du domaine de la pensée. Et je crois que c'est ça qui s'entend dans ce champ de la signifiance qui est celui du savoir de l'autre. D'ailleurs, Lacan a lancé progressivement, quand il parle de signifiant, d'une part, il va parler d'un signifiant 1, signifiant maître, après le signifiant 2, c'est aussi très, très problématique ça, hein. Ce savoir, on pourrait appeler peut-être le savoir inconscient, mais si on l'appelle à un moment le savoir inconscient, c'est aussi plus compliqué que ça. Et puis comment il s'articule les deux, hein, Dieu sait s'il en a été dit là-dessus. Et souvent Lacan revient en disant, j'ai lu le travail d'un tel, et de toute façon, c'est quand même pas tout à fait ça. La grande approche inestimable de Lacan, c'est de partir de cette chose qu'on peut chercher à comprendre, mais il ne faut surtout pas essayer de la comprendre. Le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant. C'est-à-dire que, en aucun cas, le signifiant est quelque chose pour quelqu'un. Ça, c'est signifié. Ça, c'est une certaine approche de la linguistique dans ce sens-là. C'est-à-dire, dès que on pose le signifiant comme représentant quelque chose pour quelqu'un, non, la fumée pour celui qui arrive sur l'île, hein, il n'y a pas de fumée sans feu, eh bien, dès qu'on est dans cette perspective-là, de quelque chose pour quelqu'un, et notamment pour le quelqu'un, on est, on pourrait dire, dans une dimension du fait qu'il y en a un qui sait,
Le quelqu'un, il sait, est au-dessus de l'échelle, il y a Dieu. Quelle que soit la religion. Il y a Dieu qui sait. C'est-à-dire qu'on fait référence à l'être et finalement à l'être suprême. Et on pourrait dire par la même occasion, à la dimension de l'amour. Néanmoins, reste la question du quelque chose. Si ce quelque chose, c'est ce que l'on appelle la division du sujet, bien sûr, dès qu'il y a quelqu'un, ça ne va plus, puisqu'on est dans le signifié. C'est-à-dire que dès qu'on rabat le signifiant sur le quelque chose, pour quelqu'un, sur le quelqu'un, à ce moment-là, on n'est plus dans le champ de la signifiance. On est dans cet espace particulier de la pensée habituelle, de la compréhension, qui est le champ du deux. Et on est dans ce qu'on peut appeler avec Lacan un rêve. On est dans ce rêve éveillé qui est celui de la pensée. Si on prend vraiment la découverte de Freud à la lettre, à savoir que la pensée résulte de l'élaboration secondaire, on en déduit que toute pensée est un rêve. Toute pensée est un rêve. Et que depuis toujours, l'être parlant n'a cessé de rêver. Et il a rêvé quoi? Il a rêvé qu'il y a un rapport sexuel. Et cette articulation entre l'homme et la femme qu'il a rêvé depuis toujours, il l'a mis au cœur même de la connaissance, avec toute la dimension du dualisme que vous pouvez y retrouver, hein, l'âme, le corps, l'esprit, le corps, tout ce qui relève du deux, est une certaine façon de prendre en compte le fait qu'il y a un rapport sexuel, c'est-à-dire que il n'est pas possible qu'il n'y ait pas, plus exactement. Il est impossible qu'il y ait un rapport sexuel, c'est l'impossibilité du réel. Donc vous voyez que le réel enjeu, on parle du traumatisme, c'est le traumatisme lié à l'absence de rapport sexuel. C'est pas le traumatisme lié à une cause quelconque. Ça va être par déplacement, mais encore. Et tout ceci, ça se joue dans un discours particulier, qui est ce que Lacan va écrire comme le discours analytique, justement avec des lettres, c'est-à-dire avec des choses qu'on ne pourra pas définir comme telles. Et c'est à partir du discours analytique qui va pouvoir distinguer trois autres discours. C'est pas l'inverse. C'est pas, on va d'abord définir les autres discours, et puis après on va définir le discours analytique. Non. C'est à partir du moment où il est précisé que la psychanalyse, alors là, Freud, on peut faire un clin d'œil à Freud, mais de toute façon, Freud ne va pas là. La psychanalyse n'est pas une science. Il est inutile, Sigmund Freud, d'essayer de rattacher la psychanalyse à la science. Évidemment, Freud, lui, il a déchiffré tout ce qu'il a pu, il était tout seul, on ne peut pas lui en demander plus, mais il avait besoin de cet appui. Or ça, c'est son errance, c'est même son air particulière. Et il importe, surtout dans le temps actuel, de différencier tous les discours intéressants, tout ce qui explique toutes sortes de choses, mais qui ne prennent pas en compte l'inconscient, et le discours analytique qui seul prend en compte la dimension de l'inconscient. Tout en sachant que l'inconscient, on ne peut pas le définir, puisque c'est le réel de l'inconscient. Alors, vous voyez que il n'y a pas de rapport sexuel, c'est pas du tout quelque chose qui est à prendre comme une privation ou une frustration. C'est une donnée de départ. Et que c'est très important puisque c'est en récusant ça que va se développer toute connaissance. Ce qui fait dire à Lacan, par définition, la connaissance non plus n'existe pas. C'est un rêve. C'est un rêve, comme la rêve, comme la pensée. Mais entendons bien, un rêve, ça ne veut pas dire que c'est rien du tout. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important parce que c'est à partir de là que quelque chose va pouvoir s'élaborer entre les différents penseurs que nous sommes. Le problème, c'est ça qu'on découvre dans la cure, dans le discours analytique, c'est que, à un certain moment, ce savoir pédiculé, qui est le savoir inconscient, va se manifester de telle façon que va apparaître quoi? L'angoisse, l'inhibition, symptômes, hein, je reprends les trois termes de Freud, qui font que c'est en se mettant à quoi ? Au travail. Dieu sait si c'est pas facile. Hein. Au travail, à partir du fait de parler, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que parler ? Qu'est-ce que c'est que parler ? Alors on peut à nouveau retomber dans le dualisme. Il y a la parole, il y a les vaines paroles, et puis il y a la parole tout à fait pleine. Oui. Mais ça ne dit pas grand-chose des choses. Par contre, si on est dans l'idée que lorsqu'on parle finalement, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans la pensée, dans les mots, hein, lorsqu'on bafouille avec des mots, dit Lacan, lorsqu'on bafouille avec les mots, hein, parce que c'est comme ça que ça se passe, non ? On essaie de bafouiller. Et Dieu sait si c'est compliqué, parce que même si on bafouille, on a peur de parler. Le fait de bafouiller avec des mots permet que quelque chose d'autre, une autre présence, soit là. Et cette autre présence, appelons-la signifiance, ce qui va permettre la présence de la signifiance est là. Et on pourrait dire que le psychanalyste est pris dans ce déchirement entre le signifiant et le signifié. Pour autant, j'insiste, qu'il y a une barre infranchissable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de comprendre ce que veut dire un signifiant. Le signifiant, ça représente le sujet pour un autre signifiant. Voilà. Avec ça, débrouillez-vous. C'est-à-dire que du coup, la formule de Lacan, elle montre bien qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, parce que tout ce qui est de l'ordre de la pensée réfute cette formule. La pensée, ce sera le quelqu'un. Ce sera l'être. L'être, avec vous, j'insiste bien, au-dessus de l'échelle de l'être, il y a toujours l'être suprême. C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, Dieu. On en arrive donc à cette question, vous voyez, c'est difficile, je tourne autour, qui est celle de l'importance. L'importance, vous pourriez dire structurale, mais la structure, c'est pas tout à fait ça, c'est la structure telle qu'on imagine. L'importance du fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel, à entendre tel qu'on l'entend, hein, pas au sens habituel du terme, c'est-à-dire au fait qu'il y a quelque chose qui ne cessera pas de ne pas s'écrire, ça c'est réel, et quelque chose qui à un moment peut cesser de ne pas s'écrire. Et quand ça a lieu, ça suppose, pour que ça ait lieu plus exactement, que cette impossibilité-là, impossibilité. Elle puisse être, alors comment dire ça ? Elle puisse être mise au travail. Et c'est, je pense, là que se pose la question du rapport à la jouissance, de l'autre. Elle puisse être mise au travail pour qu'il y ait passage de cette impossibilité entre deux types de discours, le savoir masculin et l'apparition du féminin, de telle façon, et ça c'est au niveau intrasubjectif, c'est pas entre deux personnes, c'est au niveau de chacun, c'est propre à chacun, c'est le particulier de chacun, ça se fait qu'au un par un. Lorsqu'il y a, chez un être parlant, du fait qu'il est divisé par le langage, c'est une façon de parler de cette division, eh bien lorsque ça survient, il est possible que advienne ce rapport de sujet à sujet qui est en jeu à travers la dimension signifiante. Et alors, si ce rapport de sujet à sujet est possible, alors quelque chose cesse de ne pas s'écrire. Et c'est ce que Lacan nomme comme étant l'amour. Bon, je m'arrête.